Salut, c'est Fred Testo. Avec le journaliste Mohamed Bouafsi et l'addictologue Laurent Carilla, on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Si je vous dis qu'on peut toujours se refaire au pari sportif après une perte, vous me dites...
Quand on perd, c'est tentant de rejouer pour se refaire.
Professeur ?
C'est une des étapes caractéristiques du jeu problématique, en fait. Le gain, la perte, l'espoir de se refaire, le désespoir. Vouloir se refaire après une perte, c'est humain, mais c'est là que commencent tous les problèmes.
Décidément, parier, c'est pas rien.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Riyad Mahrez, très fort !
Mohamed Salah, c'est lui qui vous effraie le plus.
Et je suis pas fou, il a sifflé la fin du match là.
Ouais. Incroyable,
j'ai jamais vu ça.
Nous sommes le 9 mars 1974. Le stade Nasser du Caire est plein comme un œuf. L'Égypte, pays organisateur de la 9e édition, affronte le Zaïre en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir mené 2-0, les pharaons sont rattrapés au score après le retour des vestiaires par de redoutables panthères. Nous jouons la 72e minute de jeu lorsqu'un milieu de terrain au nom à la résonance toute particulière aujourd'hui sort un geste somptueux, un extérieur du pied pour prendre à défaut toute la défense adverse et servir son attaquant Pierre Ndiaye Moulamba qui inscrira le but de la qualification pour la finale.
Alors que le numéro 17, Mavouba, j'espère que cette fois c'est bien son nom. Mavouba. Et peut-être le troisième but zaïrois. Oui, troisième but zaïrois. Marqué par Taï. But marqué à la 25e minute de cette seconde mi-temps. C'est la consternation dans le stade Nasser. Seul. Une poignée de supporters
des rois
laisse éclater sa joie.
Moi, j'étais fier de voir ces images. J'ai dit, ah oui, technique quand même. J'ai dit, technique. Mais apparemment, la technique, elle saute les générations.
Cette voix, vous l'aurez peut-être reconnue, est celle du fils du fameux passeur en question. Rempli à chaque fois de la même émotion lorsqu'il évoque son père, Rio Mavouba, ancien grand milieu des Bleus aux 426 apparitions en Ligue 1 avec Bordeaux et Lille, n'a jamais crié sur tous les toits que son père était un double vainqueur de la CAN avec le Zaïre.
Non, pourquoi on le sait peu ? Parce que je pense que je ne me suis jamais trop exprimé là-dessus. C'est vrai que de nature, comme je n'aime pas forcément parler de moi et de tout ça, peut-être parce que moi, je n'en ai pas suffisamment parlé. Et peut-être que, justement, il n'y a pas eu des gens comme toi qui sont enseignés là-dessus aussi, hein, qui m'ont questionné là-dessus.
Pourtant, la carrière et la vie de Ricky Mavouba méritent bien d'être mises en lumière. Mais d'abord une question. Comment est-ce possible que 40 ans après le deuxième sacre de son père, Rio Mavouba ait, de son côté, participé à la Coupe du Monde, non pas avec le Zaïre, mais sous le maillot de l'équipe de France ? Remontons le fil de l'histoire et reprenons tout depuis le début. Ricky Mavouba voit le jour le 15 décembre 1949 à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le pays est encore une colonie belge. En 1960, le Congo acquiert son indépendance. Et après 5 ans d'instabilité politique, le général Mobutu s'empare définitivement du pouvoir.
Nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique.
Celui que l'on qualifiera plus tard de dictateur met en place une politique nationaliste et d'authenticité africaine. Cette doctrine lui permet de tenir fermement le pays de sa main. Il chasse les étrangers et contrôle les nombreuses ethnies du territoire, ayant aussi recours à des systèmes de corruption généralisés. Pour prouver au monde entier que sa nation est unie, Mobutu se sert du football comme vitrine. Il place l'intransigeant yougoslave Blagoje Vidinic sur le banc de la sélection Et avec lui, l'arrière-boutique est bien moins reluisante. Entre les entraînements à outrance, en mode commando, et l'interdiction pour les meilleurs joueurs du pays de tenter leur chance en Europe, Ricky Mavuba était l'un d'entre eux. Et malgré la pression de tout un peuple, les Panthères du Zaïre deviennent rapidement l'une des nations les plus importantes du continent.
Ben, moi, ce que je sais, c'est que forcément, quand j'étais petit, donc on n'a pas pu forcément évoquer tout ça avec mon père. Mais ce que je sais, ce que ça représentait, c'est quand je croise beaucoup de gens, que ce soit dans les gares, dans les aéroports, dès que je croise des Congolais, ils me parlent tous de lui. Puis j'ai joué dans le Nord, donc près de la Belgique. Donc je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de Congolais que je croisais et qui m'en parlaient. Et on sentait que ça... Ils étaient fiers. Ils étaient vraiment fiers de m'en parler. Et pour moi, ben forcément, ça me rendait fier. Et tu fais des images. Et en tout cas, tu dis que c'est beau. Parce que l'image qu'il a laissée, j'ai jamais vu une personne venir me parler en mal de lui.
Milieu de terrain, comme son fils plus tard, Larousse, comme on le surnomme depuis son plus jeune âge, pour son incroyable lecture du jeu, n'hésite pas à se montrer offensif.
Bon, j'étais trop petit, c'est trop petit, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu des images, et oui, il se projetait un peu plus quand même dans la surface. Il était, il était plutôt félin, vif, et je l'ai vu mettre des beaux buts. Je l'ai vu mettre des beaux buts, j'ai eu des images où il met des très beaux buts dans la surface de réparation.
Ricky Mavuba a aussi une spécialité invraisemblable, celle d'inscrire des corners directs et même de le prédire avant de les botter.
Ouais, c'est exactement ça. Quand il pensait qu'il marquait, il a jeté ce mouchoir blanc et c'est vrai que c'était plus sur les corners, en effet.
La balle à Mavuba, spécialiste des corners brossés.
Et ça a été je pense que c'était un truc qui a été, parce qu'après le public, de ce qu'on me dit, hein, le public répondait aussi, sortait aussi des mouchoirs quand il tirait les corners. Donc pour moi, ça fait partie un peu d'une légende, mais comment les gens ils en parlent, il y en a qui l'ont vécu, il y en a qui m'ont dit j'étais au stade. Voilà, ça avait l'air d'être un truc de fou.
De cette période faste, le Zaïre et Mavuba remporteront donc deux Coupes d'Afrique en 1968 et 1974. Mais peut-être encore plus fort, les Panthères participeront à la Coupe du Monde la même année en Allemagne de l'Ouest, devenant le premier pays d'Afrique noire à disputer un mondial. Mais si l'histoire avait tout pour être idyllique, elle se terminera pourtant sur un échec cuisant. Des primes non payées poussent les joueurs à baisser les bras dès le deuxième match contre la Yougoslavie. Le gardien Kazadi Mwamba ira même jusqu'à se mettre en grève des arrêts. Résultat, défaite humiliante 9-0. Hors de lui, Mobutu ordonne alors aux joueurs de perdre de moins de 4-0 le match suivant, s'ils veulent être autorisés à rentrer au pays. Face au tenant du titre, le Brésil, les Panthères parviennent à ne concéder qu'un 3-0.
Mais moi, je pense que forcément, ça ne devait pas être simple ce qu'ils ont vécu. Alors, tu as la fierté de te dire qu'on va faire une Coupe du Monde, mais en fait, de l'autre côté, tu as le sentiment de te faire un peu avoir par la fédération, si je peux dire, ou par le gouvernement. Donc, eux n'ayant pas de primes, etc., ben ils sont... Voilà, je pense qu'ils n'avaient plus envie de jouer, quoi. Ils sont un peu... Donc, voilà, on se doute bien qu'il s'est passé des choses pour qu'il y ait autant d'écart. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un de ses ex-coéquipiers qui a dû carrément fuir le pays, je crois. J'avais bien lu qu'il avait dû fuir le pays parce que ça avait été très compliqué pour les joueurs. Alors, pour mon père, bon, ben, apparemment, ça a été, il n'y avait plus de problème avec l'État, mais avec le gouvernement, mais je sais que c'était une période compliquée pour le football africain et pour le Congo à cette période-là, qui était une des meilleures équipes, mais qui n'avait pas en contrepartie ce qu'elle devait avoir, en tout cas les primes qui méritaient.
L'histoire retiendra surtout que 40 ans plus tard, Rio Mavuba participe à son tour à une Coupe du Monde. Sélectionné dans la liste des 23 bleus de Didier Deschamps pour le Mondial 2014 au Brésil, Rio Mavuba entre en jeu à la 65e minute de jeu contre le Honduras.
Alors, Johan Cabaye va céder sa place Voilà, prochain arrêt de jeu, prochaine interruption. Ryo Mavuba.
Eh oui, non, bien sûr, ému, très ému. Évidemment, il y a un match à jouer, mais bien sûr que dans ma tête, il y a tout qui est passé quand même très vite dans ma tête. Et même le jour du match, de toute façon, j'y pensais. J'y pensais. Alors, je sais pas si elle est rentrée ou pas, mais forcément, j'y pensais. En plus, c'est la fête du jour des pères, en plus. Donc, c'était beaucoup de choses qui rentraient en compte. Et voilà, en plus, moi, j'ai fait une compétition internationale avec les Bleus. C'est la Coupe du Monde. Au Brésil, 40 ans après, donc ouais, c'était beaucoup de choses comme ça, de signes comme ça qui étaient beaux, et bien sûr que c'était en termes d'émotion personnelle, c'est le plus beau moment.
Pour en arriver à jouer avec les Bleus, c'est encore à travers son histoire personnelle et celle de son père qu'il faut y trouver un lien. Ryo est né en 1984, au beau milieu de l'océan Atlantique, à bord d'un radeau de fortune. Alors que ses parents tentent de fuir la guerre civile angolaise, le pays de sa mère. Lui, ses parents et ses 11 frères et sœurs s'installent rapidement dans la région bordelaise, où Mavuba va passer son enfance. Celle-ci sera évidemment bercée par le football. Rapidement doué avec ses pieds et un ballon, il rejoint sous les conseils avisés de Ricky, les Girondins de Bordeaux.
D'abord, je joue dans un petit club. Donc il m'emmenait de temps en temps quand il pouvait. Je jouais à un club qui s'appelait Transport en commun, donc il m'emmenait quand il pouvait. Et après au journal, il est venu me voir quand même à quelques reprises, parce qu'il était déjà un petit peu malade, donc il était venu me voir à quelques reprises. Et j'avais pas forcément de conseils particuliers qu'il me donnait, mais je me souviens d'une fois où j'avais peut-être pas rangé ma chambre ou comme ça, et il m'avait interdit d'aller à l'entraînement. Et ça m'a marqué parce que je me dis, bon, il y avait, certes, il aimait que j'aille au foot, mais il y avait quand même cette rigueur qui, voilà, ok, le foot, c'est bien, mais fais ce que t'as à faire déjà à la maison, et après, le foot, ça viendra après. Donc ça, c'est un truc qui m'est resté, et voilà, je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes, mais c'est des valeurs qui sont importantes, et il n'y a pas que le foot dans la vie.
André Joseph Makelele, le père de Claude, était aussi une panthère du Zaïre en 1974. Toujours dans cette quête de transmission, il a plusieurs fois raconté son histoire commune avec Ricky Mavuba.
En fait, c'est comme si pour eux, en fait, j'étais l'héritage, la succession. Et alors, ce qu'ils me disaient, ils étaient fiers parce qu'ils disaient que c'était un nom important, notamment dans le football africain, et que de voir son fils qui jouait ici en Europe et en France, c'était une fierté pour eux. Mais pour moi, c'était aussi presque une... Je ne vais pas dire que j'étais validé, mais comme j'étais le fils de mon père, de Ricky, ben forcément, voilà, on va dire j'étais adoubé, quoi. J'étais adoubé et j'avais le respect en fait des gens.
Ryo Mavuba ne les a pas oubliés en retour. En avril 2009, il crée l'association Les Orphelins de Makala, qui porte le nom du quartier à l'est de Kinshasa, d'où son père est originaire. Un orphelinat et un foyer ont été construits pour les enfants les plus démunis.
C'était important pour moi. C'est vrai que j'avais, depuis le début que j'avais commencé, j'avais envie de, on va dire, de faire perdurer, rendre hommage à notre nom, du coup, et à ce qu'il a fait, lui, pour le Zaïre. Et c'est vrai que ma première idée, c'était de faire peut-être une école de foot. Parce que je me dis, par rapport à son nom, ce qu'il a fait, moi, aujourd'hui. Mais dans cette idée-là, à l'époque, en plus, le sport féminin n'était pas très développé. Je me suis dit, on va aider peut-être que des garçons. Alors que je sais que c'est un pays qui est en difficulté. Donc du coup, on a décidé de partir sur l'orphelinat, par rapport aussi à ma vie, à ce que j'ai vécu. Et que là-bas, il y a beaucoup d'enfants aussi qui traînent dans les rues. Et au moins, on pouvait aider tout le monde. Après, c'est donner une deuxième chance à tout le monde. Et on est content de l'évolution, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qu'on a eu très tôt, des enfants qui sont devenus aujourd'hui adultes, diplômés, qui ont eu le bac, d'autres qui travaillent, un qui est devenu avocat. Enfin, voilà, on est vraiment content de l'évolution.
Comme celle des Mavuba, l'histoire est perpétuelle. Pour rendre hommage au combat et aux réussites de nos ancêtres, qui méritent d'être mises en lumière, comme celle de Ricky Mavuba, n'oublions pas de la raconter pour qu'elle ne soit jamais oubliée.
Salut, c'est Fred Testo. Avec l'addictologue Laurent Carilla, on vous parle des dangers des paris sportifs. On écoute le témoignage de Chloé.
Il a commencé à avoir des soucis financiers. Comme j'avais fait un prêt étudiant, je lui ai prêté pas mal d'argent. Il ne peut plus du tout me rembourser. Il a changé auprès de tout le monde.
Professeur.
Tous les joueurs peuvent basculer dans le jeu problématique. On peut avoir des conséquences financières avec l'endettement, de l'isolement social. Et il y a surtout des conséquences collatérales. Hein. Les amis, la famille.
Parier, c'est pas rien.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.